Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay, La Marche. Aujourd'hui, 27 novembre 2019, on remonte en 1925 et même dans les années précédentes, puisqu'on va parler de la formation de l'Église unie du Canada. L'Église unie du Canada naît le 10 juin 1925 de la fusion de trois confessions protestantes, les méthodistes, les congrégationalistes et la majorité des presbytériens, puisque comme on va le constater, ce ne sont pas tous les presbytériens qui se rallient à cette décision. Le tout va donner naissance à l'Église qui est aujourd'hui la plus vaste au Canada après l'Église catholique. Et pour en parler aujourd'hui dans une émission intitulée « Le rôle des Églises locales dans la formation de l'Église unie du Canada, le cas de Sherbrooke », je suis en compagnie de Julie Bérubé. Bonsoir.
Bonsoir Alex.
Bonsoir Julie. Et Julie Bérubé est titulaire d'un mémoire, titulaire d'une maîtrise en études québécoises qu'elle a consacrée à cette question-là. Elle est actuellement rédactrice pour le Service national du récit de l'univers social. C'est une guide au Musée du Montréal juif et c'est ce que j'appellerais l'une des jeunes historiennes actuellement au Québec particulièrement dynamique qui s'investit énormément dans tout ce qui est vulgarisation, tout ce qui est diffusion du savoir, que ce soit auprès de la formation des jeunes au secondaire via ses fonctions au sein du Service national du récit de l'univers social ou que ce soit au sein du Musée du Montréal juif. Elle a vraiment à cœur de diffuser l'histoire et donc on est très heureux de l'avoir avec nous ce soir pour qu'elle expose le fruit de ses recherches. Et donc, Julie, question qu'on aime bien poser à nos invités en début d'émission. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la création de l'Église unie au Canada?
Bon, la réponse, c'est à la fois simple et complexe. Simplement, je peux d'abord vous dire que c'est parce que je jugeais que les historiens n'étaient pas allés au bout du sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 80 dernières années, c'est vraiment un sujet qui a beaucoup intéressé les historiens puis qui a mené à la création d'une littérature scientifique assez abondante sur le sujet. Mais en parcourant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même certains angles morts qui demeuraient. Donc, comme tout bon étudiant de maîtrise, j'étais capable de trouver mon créneau au sein de l'historiographie qui existait déjà. Et donc, malgré le fait que ça avait été abondamment étudié, je me suis rendu compte que l'essentiel de la production scientifique portait sur les actions, les décisions des leaders du projet. Et qu'on ne s'était pas vraiment intéressé à ce qui était arrivé dans les congrégations qui étaient concernées, qui étaient au nombre de 9480
quand même,
partout à travers le pays. Donc, mis à part quelques études un peu plus locales et anecdotiques sur comment l'union était survenue dans telle ou telle église dans une ville au Canada, il n'y avait pas vraiment eu d'analyse du processus d'élaboration puis d'adoption du projet. Qui allait un peu au-delà de la posture habituelle qui était celle d'essayer d'expliquer en fait pourquoi on en était venu à une union. Puis si vous parcourez un peu les textes qui ont été écrits, bien, vous allez voir qu'il n'y a pas de consensus à ce sujet-là puis qu'il y a beaucoup d'historiens qui se sont obstinés sur les causes et les objectifs derrière ce projet-là. Donc, dans le but d'étudier un peu le rôle des églises locales dans ce processus-là, la création de l'Église unie du Canada, j'ai décidé de faire une étude de cas à partir de la ville de Sherbrooke, au Québec.
Pourquoi Sherbrooke?
D'abord pour des raisons pragmatiques, au sens où c'était un terrain d'enquête qui était parfait pour l'ampleur de la tâche qui est demandée dans une maîtrise, au niveau de tout le temps qui est investi dans le dépouillement des archives, la lecture de la littérature scientifique et tout ça. Donc, c'était quelque chose qui était réaliste à faire. Et en plus de ça, un des gros avantages de Sherbrooke, c'est qu'on avait une seule église de chacune des trois confessions concernées. Donc, une méthodiste, une presbytérienne et une congrégationaliste, ce qui était assez plus rare, en fait, dans l'ensemble du Canada, parce que souvent, on se retrouvait dans une... Mettons, surtout dans le Canada anglais, dans une ville où il y a deux églises méthodistes, trois églises presbytériennes, puis il n'y a pas d'église congrégationaliste. Donc, à Sherbrooke, on avait vraiment un cas de figure parfait pour vraiment considérer la part de ces trois groupes-là, parce qu'il y en avait en plus une seule de chaque groupe. Puis aussi... évidemment, c'était un sujet qui n'avait pas été abordé au Québec encore. Donc, c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi ça comme étude de cas. Ouais.
Fascinant, mais sur ça, on s'en va déjà en musique et on vous revient après la pause musicale pour brosser le portrait de l'Église au Canada à la fin du 19e et au début du 20e siècle et comprendre plus amplement comment ces méthodistes, ces presbytériens, ces congrégationalistes en sont venus à désirer former une Église unie ensemble. Et on commence en musique avec un extrait en fait de musique protestante puisque, comme vous le savez peut-être, Luther et les différents en fait maîtres de la réforme protestante vont avoir à cœur de développer une musique pour permettre aux gens aux fidèles de vivre l'expérience religieuse. On va être moins du côté de l'art pictural, de l'art en fait sculptural et des vitraux, mais la musique en fait est fondamentale et on a ici un extrait d'une œuvre de Loys, bourgeois, compositeur et théoricien français de la Renaissance qui a surtout travaillé dans la mouvance calvinisme et donc on s'en va écouter le psaume 3 du psautier de Genève dans une interprétation de Ernst Stoll.
Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'Anglais.
Est-ce que ça peut attendre? C'est 3600 secondes d'histoire.
Oh, est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans.
Ici Alex Tremblay-Lamarche, vous êtes toujours sur les ondes de 3600 secondes d'histoire, comme vient de vous le rappeler Jeanne d'Arc elle-même. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Julie Bérubé pour parler de la formation de l'Église unie au Canada, en partant de l'exemple de Sherbrooke. Et donc, Madame Bérubé, juste avant la pause musicale, on parlait de l'Église unie, ce qui vous avait amené à vous intéresser au cas de Sherbrooke. Vous aviez dit qu'il y avait 9000 congrégations qui vont participer à la formation de l'Église unie. Le portrait, en fait, de l'Église protestante au Canada a l'air de quoi au début du 20e siècle? Est-ce que, c'est la majorité des protestants qui vont aller du côté de l'Église unie? Est-ce que, c'est une minorité? De quoi est-ce que ça... À quoi ressemble le portrait religieux, en fait, du Canada protestant, si on peut s'exprimer ici?
Oui, pour répondre d'emblée à votre question, oui, c'est vraiment une très large proportion des chrétiens protestants qui vont se retrouver dans l'Église unie, parce qu'une fois qu'elle va être créée, ça va être l'Église qui va compter le plus de fidèles. Elle va dépasser d'environ 400 000 personnes. L'Église anglicane, qui, avant sa création, était l'Église protestante la plus importante au pays. Ce serait long et fastidieux de rentrer dans le détail de tous les groupes protestants qu'on retrouve au Canada si on prend les données du recensement de 1921, parce que on en retrouve 15 différents, donc listés dans le recensement. Puis ça montre pas aussi toutes les variétés puis toutes les différentes branches qu'il y a au sein même de ces mouvements-là. Donc, on n'entrera pas dans les détails, mais ce que je peux vous dire, c'est que Parmi les groupes les plus importants à l'époque, on a, comme je disais tout à l'heure, les Anglicans qui sont environ 1,4 million en 1921. On a les Méthodistes qui sont 1,1 million, les Presbytériens qui sont 1,4 million. Et parmi ceux qui vont contribuer à l'Église unie, on a les congrégationalistes qui, eux, sont beaucoup plus minoritaires. Ils sont que 30 000 en 1921. Donc, c'est vraiment un groupe là, qui est vraiment moins répandu au Canada. Ce qui explique aussi que parfois, c'est normal de trouver des villes où on n'avait pas d'église congrégationaliste. Et ce qui fait en sorte que c'est encore plus spécial de retrouver ces trois églises-là à Sherbrooke. Là. Donc, ça faisait en sorte que c'est un terrain d'étude qui était très intéressant à ce sujet-là, quand on considère qu'il y en avait très peu au Canada. Évidemment, il y a aussi les catholiques, si on parle de groupes chrétiens, qui sont à peu près 3,3 millions à l'époque. Donc, ça vous donne un peu une idée du portrait, le tout sur une population totale de 8,7 millions d'habitants.
Quand même. Et si on s'intéresse plus particulièrement aux groupes qui vont former l'Église unie du Canada, pour nos auditeurs qui connaissent peut-être un petit peu moins les spécificités des congrégationalistes, des méthodistes, des presbytériens, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement chacun de ces groupes-là et nous exprimer un peu les différences qu'il y a entre eux?
Bien sûr, puis sachez que c'est tout à fait normal de ne pas s'y retrouver moi-même avant de me lancer dans ces recherches-là. Ça voulait pas dire grand-chose pour moi, la différence entre des méthodistes et des presbytériens. Je sais que c'est pas une connaissance qui fait partie de notre formation en histoire en tant que Québécois et Canadien. Donc, pour faire court, les congrégationalistes, c'est un groupe qui va émerger à la fin du 16e siècle, qui va se séparer de l'Église d'Angleterre, donc du mouvement anglican, parce qu'ils vont s'opposer, en fait, à la structure hiérarchique qui est érigée autour du concept de l'épiscopat, donc le fait qu'on a des évêques, dans l'Église anglicane. Puis, ils vont vraiment être contre toute forme de structure d'autorité dans l'Église et aller jusqu'à dire que, c'est les fidèles qui ont le sacerdoce universel et qui devraient diriger. Donc, voilà pour ça. Du côté des méthodistes, ça vient beaucoup plus tard, c'est au 19e siècle, au 18e, pardon, avec John Wesley, qui lui aussi va se séparer de l'Église d'Angleterre parce qu'il va trouver que c'est une Église qui est peut-être un peu trop formatée pour l'élite. Il va vouloir apporter la parole aux gens des classes un peu plus populaires. Et donc, c'est lui qui va, entre autres, populariser ce qu'on appelle le « open air preaching », donc de simplement de monter sur une place, dans une place publique et de prêcher aux gens qui veulent bien nous entendre. Et le terme « méthodiste » vient du fait qu'il insistait beaucoup sur la discipline et la piété personnelle. Donc, puis quand John Wesley va créer ce mouvement-là, lui, au départ, il ne voulait pas se séparer de l'Église d'Angleterre. C'est vraiment après son décès que c'est un nouveau courant qui va émerger. Puis finalement, avec les presbytériens, c'est un groupe qui va naître dès le 16e siècle et qui va essentiellement adopter la théologie du réformateur Jean Calvin. Et c'est un principe qui va s'étendre un peu partout en Europe, mais surtout en Écosse, puis qui se caractérise surtout par le fait qu'on veut que la gouvernance repose dans les mains de ce qu'on va appeler des presbytères, ou en français, la vraie traduction, là, ce serait consistoire, mais pour faire ça simple, on peut dire presbytère, que dans le fond, c'est un conseil d'anciens qui vont être regroupés ensemble et qui vont avoir autorité sur l'Église. Et on va aussi énormément insister sur la formation théologique des pasteurs. Donc, en gros, c'est ce qui va distinguer les presbytériens des autres groupes.
Et donc, comment est-ce que ces groupes-là vont être appelés à vouloir créer une Église unie? D'où vient cette idée-là?
Les historiens ne s'entendent pas sur cette question-là, mais vraiment pas. On peut tracer des grands traits. On sait que au fin du 19e, vers 1880, il y a des discussions entre les différentes confessions protestantes canadiennes de peut-être envisager une union. Ces discussions-là, à l'époque, incluent les Anglicans. Ceci dit, les différents groupes qui discutent, puis quand je parle de groupes, je parle évidemment des élites nationales là, de ces mouvements-là. C'est pas les fidèles qui assistent aux offices tous les dimanches qui vont participer aux discussions. Donc, cette élite-là, elle discute, puis sont malheureusement incapables de trouver un terrain d'entente parce que les Anglicans ne veulent à aucun prix se débarrasser de leur système épiscopal. Puis, c'est quelque chose que les églises qu'on appelle non-conformistes, donc les presbytériens, les méthodistes et congrégationalistes, ne sont pas prêts à accepter. Donc, le projet est comme tué dans l'œuf parce qu'on n'est pas en mesure de s'entendre là-dessus. Ceci dit, ça ne va pas empêcher les différents groupes de collaborer les uns avec les autres, entre autres d'établir des règles très strictes pour empêcher la compétition dans les champs missionnaires. Donc, par exemple, quand on va développer l'Ouest canadien, on va trouver ça un non-sens qu'on se retrouve avec une chapelle presbytérienne puis une méthodiste en face l'une de l'autre dans un petit village qui compte 20 habitants. Donc, on va établir des règles. Puis si ma mémoire est bonne, on n'a pas le droit d'établir de mission à moins de 6 000 les unes des autres. Donc, c'est le genre de règles qu'on va être capable de mettre en forme là, pour assurer une bonne collaboration. Parce qu'à l'époque, bien, on voit que le projet de christianiser le pays, bien, c'est quelque chose auquel tout le monde doit prêter main forte, puis que ce soit plus qu'une église ou une autre. Il n'y a pas assez de différence puis d'animosité entre ces églises-là pour qu'elles se fassent vraiment en compétition. On va même assister, dans certains cas, à des offices religieux interconfessionnels. Donc, un cas de figure assez typique, c'est, durant l'été, dans une ville, il y a deux églises, une méthodiste, une presbytérienne. Mm-hmm. Bien, les pasteurs de ces deux églises-là vont être capables de prendre un mois de vacances parce que le mois où ils partent, bien, ils invitent la congrégation à aller s'assembler avec l'autre église, même s'ils ne sont pas de la même dénomination. Donc, ça, c'est des exemples qu'il y a quand même eu des rapprochements de la collaboration à l'époque. Et, sans trop savoir exactement ça sort d'où, j'ai l'impression que c'était dans l'air, dans la discussion depuis plusieurs années. En septembre 1902, l'instance supérieure des méthodistes, qui s'appelle la General Conference, est réunie à Winnipeg et ils adoptent une résolution voulant qu'ils sont d'accord d'aller de l'avant avec une union et qu'ils vont présenter le projet aux presbytériens et aux congrégationalistes canadiens. Ce à quoi ces deux groupes-là vont répondre. L'année suivante, en 1904, oui, c'est ça, donc 2 ans plus tard, vont répondre par l'affirmative, puis tranquillement, le projet va se mettre en forme.
Et si au final, il y a déjà une bonne collaboration entre les différents groupes, pourquoi créer une Église unie et comment est-ce qu'ils vont s'y prendre aussi pour le faire?
L'idée, c'est vraiment ceux qui vont être vraiment le fer de lance de la position unioniste vont défendre leur point de vue avec un verset dans l'Évangile de Jean qui dit que le Seigneur veut que les chrétiens soient unis, puis ils vont vraiment se désoler du fait qu'il y a plusieurs différentes confessions protestantes qui existent et ils vont avoir ce grand projet de réunir l'ensemble des chrétiens protestants canadiens sous une même bannière. Parce que pour eux, cette union-là, c'était censé être une étape vers d'autres unions qui allaient finir par amalgamer d'autres confessions protestantes aussi. Il va d'ailleurs avoir des discussions à ce sujet-là dans les années 1950 avec les Anglicans. Encore une fois, ça n'ira pas plus loin.
Mais, ils tiennent à leur évêque.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc, les raisons pour lesquelles on va créer ce projet-là, il y a aussi des historiens qui ont dit que... C'est au début du 20e siècle, au Canada, on accueille beaucoup de communautés immigrantes qui sont non chrétiennes. Donc, on a ce désir-là de mettre en place une structure qui va être capable d'accueillir tous ces immigrants-là et de s'assurer qu'ils adhèrent aux bonnes valeurs protestantes, canadiennes, anglo-wasp, si on veut le dire ainsi. Donc, et il y a même d'autres historiens qui ont émis l'hypothèse que peut-être que c'était vraiment juste une question financière, ces trois églises-là, individuellement, ça n'allait pas trop bien. Si on met tout ça ensemble, on est capable de faire plus et de faire mieux. Donc, puis personnellement, j'aurais du mal à dire là, qu'il y a l'une ou l'autre de ces hypothèses-là qui est fausse, parce qu'ils sont généralement supportés par des faits qui sont somme toute crédibles. Et je pense que la plus grande erreur des historiens à ce niveau-là, ça a été de dire, bon, ben, c'est plus telle explication qui prévaut, alors qu'on sait que souvent les phénomènes historiques sont vraiment une myriade de facteurs qui vont entrer en relation les uns avec les autres.
Exact. Et donc, comment est-ce que se met en place les pourparlers? On a dit tout à l'heure que bon, les méthodistes voulaient aller cogner à la porte des presbytériens, des congrégationalistes. Qui le fait? Est-ce que c'est une structure qui bon, est particulièrement ouverte auquel les fidèles participent, ou au final, est-ce que c'est assez étanche?
C'est assez étanche. Ce qu'on va faire, c'est que les instances supérieures nationales des trois confessions vont mettre en place un comité qui est séparé et qui est responsable de s'occuper de la question de ce projet d'union-là. Et ces trois communautés-là vont être réunies dans ce qu'on appelait le Joint Committee on Church Union, que je vais peut-être appeler juste le Joint Committee parce que c'est un peu long.
Nos auditeurs vont comprendre.
Exact. Donc, et ce Joint Committee-là, il était formé de 40 délégués méthodistes, 40 presbytériens et 10 congrégationalistes. La disparité ici s'explique surtout parce que, ben, comme je l'ai évoqué précédemment...
Ils sont moins nombreux.
Exactement, c'est ça. Et ce comité-là, sa principale fonction, donc ils vont se réunir une première fois en 1904. Ensuite, ils vont faire une réunion annuelle au mois de décembre à Toronto jusqu'en 1908. Et ce sur quoi ils vont travailler, c'est un document qu'on appelle la Basis of Union, qui est en quelque sorte une proposition de constitution pour la nouvelle Église unie qui est appelée à être formée. Et au sein même de ce comité-là, ben, on va nommer 5 sous-comités. Donc, un qui va examiner la doctrine, l'autre la politique organisationnelle interne, un comité qui va mettre les règles pour la nomination des pasteurs, un autre comité pour l'administration et finalement un qui va se pencher sur les aspects légaux qui entourent la création de cette église-là. Et en 1908, ben, les travaux de ce comité-là arrivent à leur fin. Ils ont élaboré une Basis of Union et ils vont venir la présenter aux églises pour approbation. Puis la plupart de ces travaux-là ont lieu à peu près en vase clos. On a relayé dans les journaux un peu l'essentiel des discussions, mais vraiment, ce sont des élites confessionnelles qui ont été nommées par les instances nationales qui se réunissent et qui discutent pour mettre en forme cette constitution.
Et donc, lorsqu'on arrive vers les fidèles, comment est-ce qu'ils réagissent?
Bien, d'abord, on va pas tout de suite consulter les fidèles. Une fois que la Basis of Union est prête, on va la présenter au Conseil supérieur des trois églises. Donc, du côté des méthodistes, on va approuver à 86 %. Du côté des presbytériens, on va approuver à 71 %. Et du côté des congrégationalistes, l'instance supérieure ne votera pas, parce qu'ils considèrent que la décision revient souverainement à chacune des églises locales, donc ils ne prendront pas de vote. Et bon, donc c'est une fois que les instances nationales, méthodistes et presbytériennes, une fois qu'ils se sont prononcés sur la question, là, on va décider de présenter ça aux églises locales. Ce qu'il faut savoir, c'est que techniquement, la constitution de ces deux confessions-là, les méthodistes et les presbytériens, ne les oblige pas à consulter les églises locales dans ce genre de situation-là. Elles ont l'autorité nécessaire pour prendre ce genre de décision. Ceci dit, elles vont choisir tout de même de le faire, un peu à l'instar des congrégationalistes qui vont d'emblée présenter la question aux fidèles.
C'est ce qu'on va voir après cette deuxième pause musicale et la pause publicitaire, parce que pour l'heure, on s'en va écouter The Holy City, qui est l'un des chants religieux anglophones les plus populaires. Il est l'œuvre de Stephen Adams, né Michael Maybrick, qui est un compositeur bien connu de l'époque victorienne et qui, selon certains, serait peut-être Jack l'Éventreur. J'ai pas eu le temps de vérifier si l'hypothèse était solide ou pas. C'est ce qu'avance le cinéaste et écrivain Bruce Robinson, mais ce dont on est sûr, c'est que The Holy City, un chant religieux qui parle de Jérusalem, est effectivement l'une des chansons particulièrement populaires à la fin de l'époque victorienne et au début de l'époque édouardienne, à laquelle justement se trame la création de l'Église unie du Canada. Et donc, on s'en va en musique avec The Holy City dans une interprétation de Jeffy Lung et Alexander Wang.
Last night I lay asleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven answering. Methought the voice of angels from heaven answering. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gaze and sing. Hosanna in the highest, Hosanna to your King.
Salut les skates! Viens élever ton érudition avec l'équipe des passionnés des arts visuels d'À l'Est de vos empires. Perfo Live, agenda culturel, entrevues avec des invités spéciaux, revues d'expositions et couvertures d'événements, on vous tient au courant de l'actualité culturelle et artistique de Québec. Tous les lundis à 19h30, on jase d'art tout en présentant la playlist confectionnée par le DJ Maison Julien Saint-Georges. À l'Est de vos empires, tous les lundis 19h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Hey, salut, ça va?
Ben oui. Puis, qu'est-ce que ça fait en fin de semaine?
Bon, pas grand-chose, je me suis reposé.
Ah, c'est plate.
Non, non, c'était bien correct. Ça sert à ça, les fins de semaine.
Ah, t'as bien raison. Tu t'es trop reposé en fin de semaine, le meilleur de la musique néoclassique, dimanche midi sur Chiz 94.3.
On le sait, la musique a le pouvoir de faire de grandes choses, tant sur le plan individuel que collectif. Les Dames en blues, c'est votre émission pour en connaître davantage sur les origines du blues en tant que voie d'émancipation populaire des femmes et dans la lutte historique pour les droits civils.
Rendez-vous samedi 11h pour explorer les influences et l'immense postérité de ce style de musique.
Parce que le blues, ça se vit.
Tu aimes la politique et entendre du monde chialer? Ne manque pas la nouvelle émission sur les ondes de Chiz 94.3, L'affaire est politique.
Au menu, une foule d'invités questionnés sans filtre, des chroniques divertissantes, nouveaux genres, et le tout offert par une équipe de passionnés politiques.
C'est un rendez-vous tous les lundis matins de 9h à 11h de bonne et de mauvaise humeur sur les ondes de Chiz 94.3.
Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Tannée de toujours entendre des gens fâchés à la radio? Essayez Chérie J'arrive, nouvelle formule améliorée. Plus de chroniqueurs, plus de nouveautés musicales, d'artistes en entrevue, des arts visuels, de l'improvisation, du théâtre, de l'annonce, du cinéma et même du monde qui passe à TV! Chérie J'arrive est disponible dès maintenant du lundi au vendredi de 16h à 17h30 pour 5 paiements faciles de... gratuits! Chérie J'arrive, l'émission des gens toujours contents et pertinents. Je suis Émilie Rioux et j'approuve ce message.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve tous les mercredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Les mercredis dès 13h, synthonisez le deuxième service sur les ondes de Schiste 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Schiste 94.3.
Toujours sur les ondes de Schiste 94.3, comme vient de nous le rappeler la bonne Sainte-Anne cette fois-ci. Et je suis ce soir en compagnie de Julie Bérubé, historienne, pour parler de la création de l'Église unie au Canada. Un phénomène qui, comme on l'a vu, bon, naît à la fin du 19e siècle, mais s'organise plus concrètement au début du 20e siècle. Comme Julie nous l'a dit juste avant la pause musicale et publicitaire, c'est un processus qui va d'abord être élaboré par bon, des élites confessionnelles, puis bon, être envoyé au sein de chacune des instances, disons, plus nationales de ces dénominations religieuses. Puis, ben, on va en venir à consulter les églises locales. À partir de quand est-ce qu'on les consulte?
Oui, donc si on se rappelle, la Basis of Union, qui est la Constitution, elle est présentée en 1908 aux instances supérieures, puis chez les congrégationaliste, tout un exercice de diction. C'est en 1910 qu'on va sonder l'opinion des églises locales à ce sujet-là. Du côté des méthodistes et des presbytériens, ça va avoir lieu en 1912. Et on va de nouveau faire un référendum sur la question en 1915, et à ce moment-là, particulièrement chez les presbytériens, parce qu'on jugeait que l'appui exprimé en 1912 n'était pas suffisant là, pour aller de l'avant avec le projet.
Et donc, la réponse chez les fidèles n'est possiblement pas celle qu'espéraient les élites confessionnelles.
Oui et non. Ça dépend. Je vous dirais que ça dépend dans quelle confession. Donc, si on prend l'exemple, en fait, de Sherbrooke, donc l'Église congrégationaliste à Sherbrooke, il y a seulement 15 % des membres qui vont se prononcer en faveur du projet. Mais il faut noter qu'ici, on a un taux de participation au référendum qui est de seulement 27 %.
Ouais.
Ce qui s'explique, entre autres, par le fait qu'on savait que c'était un vote préliminaire un peu sur la question puis que ça n'engageait en rien leur Église. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ne se sentaient pas aptes à voter ou qui n'avaient pas bien examiné la question ou qui se disaient qu'ils se prononceraient une fois que ce serait vraiment important. Donc, il faut quand même nuancer ce résultat-là là, avec cette information-là. Du côté de l'Église méthodiste à Sherbrooke, qui s'appelle l'Église Trinity, malheureusement, j'ai pas été en mesure de trouver de traces du vote dans les archives de cette église-là, ni même dans les journaux, ni même dans d'autres sources croisées. Et bon, l'absence de ces résultats-là, ça veut pas forcément dire qu'il n'y a pas eu de vote. Ceci dit, ça pourrait être possible parce qu'on sait qu'il y a certaines églises méthodistes qui ont pas vraiment consulté leurs fidèles. Là. C'est quelque chose qui a pas été fait de manière systématique chez les méthodistes, alors que l'Église est entrée, elle, d'un seul bloc dans l'Église unie. Il y a vraiment, chez les méthodistes, cette idée de corps là, qui est plus présente, de dire qu'on forme un seul tout, puis que ce que la tête décide, bien, on suit. Donc, ça pourrait expliquer un peu la situation. Puis du côté de l'Église presbytérienne de Sherbrooke, donc qui s'appelle St. Andrews, en 1912, on a 86 % des voix qui sont en faveur du projet de l'Église unie, tandis qu'en 1915, on descend à 24 %.
Donc, c'est presque des chiffres inverses.
Exactement. C'est un phénomène qui va se voir ailleurs aussi, qui est assez particulier. C'est difficile de dire exactement ce qui a causé ce changement de cap. Ceci dit, ce qu'on peut avancer, c'est que le pasteur Alfred Bright, qui des années plus tard va être un anti-unioniste notoire, est arrivé à Sherbrooke quelques temps avant le vote de 1915, donc c'est un nouveau pasteur.
Ouais.
Il n'est pas impossible qu'il ait influencé l'opinion de la congrégation puis qu'il ait causé ce changement de cap là, au sein de la congrégation.
Ouais, et lorsqu'on parle des églises locales, bon, on a souvent tendance à penser qu'elles ne disposent pas tant d'autonomie que ça. Dans quelle mesure est-ce qu'elles disposent d'autonomie par rapport aux églises, bon, plutôt aux instances nationales?
Encore une fois, ça va beaucoup varier d'une confession à l'autre. Les congrégationalistes, techniquement, sont en mesure d'élire des délégués, des représentants aux instances nationales qui vont porter leur, leurs revendications s'il y en avait. Puis techniquement, les instances nationales n'ont pas d'autorité ferme sur les églises locales. Okay. Donc chacune est souveraine. Ceci dit, en demeure pas moins que dans les trois cas, ce qu'on observe, c'est que les églises locales, ben, elles s'occupent de choses qui sont de l'ordre local. Donc, c'est elles qui vont...
Charité.
C'est elles qui vont décider si on alloue des fonds pour réparer le toit qui coule. C'est eux qui vont former les comités. C'est eux qui vont quand même avoir une certaine latitude au niveau de la liturgie aussi dans certains cas. Mais vraiment, tout ce qui concerne l'administration plus générale de l'ensemble de la confession à l'échelle soit régionale, provinciale ou nationale, c'est quelque chose qui va être mis dans les mains de ces comités-là. Et dans certains cas, les fidèles, particulièrement chez les méthodistes, ben, c'est même pas eux qui vont élire leurs délégués qui les représentent assez, dans ces instances-là.
Et donc, à Sherbrooke, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il y a des gens qui vont sortir sur la scène publique? Est-ce qu'il va y avoir des lettres qui vont être écrites? Est-ce que, bon, il va y avoir des discours qui vont être faits aussi sur la place publique?
Entre 1910 et 1915, on trouve peu de choses dans les sources primaires, donc que ce soit dans les procès-verbaux ou dans le journal local à ce sujet-là. On se rend compte qu'il y a eu, en 1915, une conférence, en fait deux, donc une pour, une contre, chez les presbytériens pour montrer les deux côtés de la médaille. Il y a eu plusieurs articles dans la presse, mais des articles qui venaient de Sherbrooke même, donc par exemple des lettres au courrier des lecteurs du journal local. On n'en a que six sur une période de 5 ans, donc c'est assez peu. Et 4 de ces 6 lettres-là viennent de pasteurs, en fait. Donc, c'est pas vraiment des gens qui sont en train de discuter d'enjeux ici. Là, on essaie plus d'influencer d'un côté ou de l'autre. Donc, puis il semble pas y avoir eu tellement de débats publics sur la question. Il y a même une réunion qui avait été organisée par l'Église congrégationaliste en 1910. Puis le rapport que nous en fait le journal nous indique que sur une possibilité de 150 membres, bien, il y a 7 hommes qui se sont présentés puis qui ont un peu donné leur opinion, puis que la réunion n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. Donc, de ce qu'on peut voir des sources, là, il faudrait voir si dans la réalité, c'en était autrement, parce qu'évidemment, c'est ce genre de conflit qui n'a peut-être pas laissé de traces écrites. Mais j'aurais tendance à dire que ça a peu suscité les débats parce que, ben, quelques années plus tard, on va avoir un débat chez les presbytériens et là, on voit vraiment la trace dans les journaux, dans les procès-verbaux. Donc, ça me porte à dire que, bon, si on trouve rien, c'est peut-être parce qu'il n'y avait rien.
Effectivement. Et ce débat-là que vous voyez chez les presbytériens, vous le voyez entre 1923 et 1925. Qu'est-ce qui se passe entre 1915 et 1923? Pourquoi est-ce que ce débat-là, cette controverse-là prend autant de temps à éclater?
Ce qui arrive, c'est que, donc, à l'issue du vote de 1915, la General Assembly, qui est l'instance nationale chez les presbytériens, a techniquement le mandat d'aller de l'avant avec le projet. Par contre, la controverse chez les presbytériens devient de plus en plus vive à mesure qu'on a l'impression que le projet se concrétise. Puis il y a des élites nationales qui vont s'opposer fermement là, à ce projet-là. Et la controverse, elle devient si vive qu'en 1917, on va demander qu'une trêve soit observée.
Pour la Première Guerre mondiale.
Oui, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale sur la question, donc avant de la remettre à l'agenda. Et c'est en 1921 que ça va être fait. Puis la General Assembly va de nouveau réitérer que, bon, en vertu du résultat du vote de 1915, on a un mandat clair d'aller de l'avant et elle va prendre un nouveau vote, puis avec l'appui de 79 % des délégués de cette Assemblée-là vont décider de dire, bon, bien, on veut tout mettre en œuvre pour que l'union se produise aussi vite que possible. Et là, je traduis là, de « as expeditiously as possible », c'est les mots qu'on a utilisés à l'époque.
C'est clair.
Okay. Et bien, ça va faire que, évidemment, les hostilités vont reprendre parce que du côté des anti-unionistes, ben on n'a pas adouci notre position là, depuis le début de la trêve en 1917.
Mais qu'est-ce que les anti-unionistes reprochent, justement, à ce projet-là? Et est-ce que ce ne sont que les presbytériens qui s'y opposent ou on voit qu'il y a aussi de l'opposition chez les congrégationalistes et les méthodistes?
Je vais répondre à votre première question d'abord, parce que ça va nécessiter quand même une réponse assez détaillée. Donc, ce que les anti-unionistes reprochent, puis c'est là, à mon avis, ce qui est très, très intéressant dans cette controverse-là, c'est que c'est vraiment, au fond, une dispute constitutionnelle. C'est qu'on se rend compte qu'à un moment donné, les anti-unionistes ne reconnaissent pas que la General Assembly a l'autorité et la légitimité de prendre la décision qui va faire disparaître à toute fin pratique l'Église presbytérienne, et ce, sans avoir l'appui de chacun des millions de membres là, de l'Église. Et bien, dans un certain sens, ils ont tort, parce que techniquement, si on regarde leur constitution, en effet, la General Assembly a pris toutes les mesures nécessaires, là, j'entrerai pas dans les détails, mais pour s'assurer que sa démarche était tout à fait constitutionnelle et conforme au règlement qu'elle avait. Donc, c'est intéressant ici de voir que les anti-unionistes revendiquent en fait un petit peu plus d'autonomie et vont même se faire accuser d'être des congrégationalistes parce qu'ils revendiquent cette autonomie-là pour les églises locales, pour les gens de décider. Votre seconde question portait sur comment on réagit chez les congrégationalistes et les méthodistes. Comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, chez les méthodistes, c'est dès qu'on a le vote de 1912, il y a des gens qui ont soulevé quelques oppositions, mais une fois que la tête a décidé, ben, tout le monde suit, on va de l'avant, puis le projet se déroule sans trop de problèmes. Du côté des congrégationalistes, on va, maintenant qu'on voit que le projet est sur le bord là, de se concrétiser, en 1923, on va demander à chacune des églises locales de voter individuellement est-ce que vous voulez ou non entrer dans l'Église unie. Donc, c'est pas une question de est-ce que l'Église congrégationaliste va rentrer en bloc dans l'Église unie, c'est vraiment individuellement, vous, l'Église Plymouth de Sherbrooke, est-ce que vous souhaitez devenir la Plymouth United Church?
Effectivement, on voit qu'il y a une différente façon de fonctionner en fonction des dénominations religieuses. Et sur ce, on s'en va de nouveau en musique avec The Lord My Shepherd de Jesse Seymour Irving, qui est une œuvre inspirée du psaume 23. Jesse Seymour Irving est la fille d'un révérend presbytérien écossais qui est principalement connu pour cette œuvre qu'elle aurait composée alors qu'elle était encore adolescente au milieu du 19e siècle et qui est restée une œuvre qui fait partie du patrimoine musical des communautés protestantes, presbytériennes entre autres, mais des communautés protestantes de manière plus générale. Et donc, on s'en va avec The Lord My Shepherd de Jesse Seymour Irving.
Chemin! Que se passe-t-il, leur secours? Les Américains seraient-ils arrivés?
Oui, mais c'est surtout 3600 secondes d'histoire qui est sur le point de recommencer.
Effectivement, 3600 secondes d'histoire recommence à l'instant. Et ce soir, nous recevons Julie Bérubé, auteur d'un mémoire de maîtrise sur la formation de l'Église unie au Canada, phénomène qu'elle a étudié à travers l'exemple de Sherbrooke, qui est une communauté qui, comme on l'a vu avant la pause musicale et depuis le début de l'émission, avait l'avantage de contenir une église méthodiste, une église congrégationaliste et une église presbytérienne, pardon. Et donc, on a vu que, bon, en 1921, tranquillement, bon, les esprits commencent à s'échauffer. Si les congrégationalistes et les méthodistes sont plutôt favorables à cette décision-là, il y a plusieurs presbytériens qui jugent que leurs élites n'ont pas la légitimité et l'autorité pour être capables de prendre cette décision en leur nom. Et c'est vraiment en 1923 que, bon, ben, si on peut s'exprimer ici, la marde va pogner. et donc, qu'est-ce qui se passe qui fait éclater le conflit de manière un peu plus violente entre en 1923 et comment est-ce que ce conflit-là va s'exprimer?
Bien, en fait, c'est à l'aube d'une des réunions annuelles de la General Assembly, qui est, je le rappelle, l'instance supérieure nationale chez les presbytériens. Donc, la réunion, elle a lieu en juin 1923 et on sait que à ce moment-là, il y a un projet de loi qui va être présenté et qui va être adopté, présenté pour adoption là, à la General Assembly. Maintenant, un petit aparté, pourquoi un projet de loi? En fait, c'est que c'est un document qui était nécessaire qui prévoyait l'incorporation là, très légale de l'Église unie du Canada pour s'assurer que les possessions immobilières et en fait les ressources financières des trois églises qui allaient se mettre ensemble allaient légalement tomber sous la même organisation. Donc, grosso modo, c'est ce pourquoi le projet de loi est nécessaire. Puis, bien, évidemment, pour les anti-unionistes, l'adoption de ce projet de loi-là, c'est un pas de plus vers un projet dont ils n'ont pas envie du tout. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est à peu près là, au printemps 1923 que les hostilités vont vraiment se déployer. Ceux qui sont contre l'union vont s'organiser autour d'une organisation qu'on appelle la Presbyterian Church Association, qui va, elle, être aidée par la Presbyterian Women League, qui vont en fait être une association de femmes qui vont être dédiées à supporter l'action de la PCA, appelons-la ainsi. Et surtout, en fait, la supporter financièrement, c'est grâce à ces femmes-là qui vont faire des levées de fonds de façon très dévouée, en fait, que la Presbyterian Church Association va pouvoir mener ses actions. Et de l'autre côté, du côté de ceux qui sont pour l'union, on va avoir le Committee on Church Union, qui est en fait, je vous ramène là, quelques années plus tôt, quand on crée le Joint Committee en 1904, chacune des confessions a son propre comité à l'intérieur de ce grand comité-là. Donc, dans ce cas-ci, c'est en fait la branche presbytérienne de ce comité-là, donc le Committee on Church Union, qui, à partir de 1923, va avoir mis dehors tous les représentants qui étaient contre l'union et qui va vraiment devenir le groupe qui va défendre bec et ongle le projet d'union. Et ces communautés se regroupent essentiellement à Toronto, quelques-uns à Montréal, mais surtout à Toronto. Et ils vont fonder des filiales locales. Ils vont essayer d'en fonder le plus possible dans les petites villes et les villages partout au Canada pour vraiment mettre de l'avant là, leur agenda respectif.
Et à Sherbrooke, ça va ressembler à quoi?
Donc, on va introduire une filiale de la Presbyterian Women's League. J'ai pas trouvé de traces de la Presbyterian Church Association à Sherbrooke. C'est surtout les femmes qui se sont mises ensemble et qui ont vraiment été très, très, très actives avec différents moyens comme l'organisation de conférences, signature de pétitions. On va même distribuer des cartes de membres qui font en sorte, en fait, que si une personne prend cette carte-là et la signe, bien, elle dit, bon, je promets de rester fidèle à l'Église presbytérienne et de ne pas entrer dans l'Église unie. Donc, on demandait aux gens de faire cette espèce d'engagement-là. On va payer des publicités dans les journaux et utiliser là, vraiment plein de moyens. Puis de l'autre côté, donc les unionistes vont utiliser des armes assez similaires, mais ils vont surtout se démener pour faire du lobbyisme. auprès des différents élus, députés fédéraux. Donc, surtout à partir de janvier 1924, parce qu'on le sait que, là, que le projet de loi, en fait, il est adopté par la General Assembly en 1923 et il va être présenté comme projet de loi privé là, au Parlement canadien. Donc, on va se mettre à faire du lobbyisme auprès des différents députés pour s'assurer que le projet de loi allait être adopté. En plus de toutes les autres initiatives là, communes, donc les conférences, la distribution de pamphlets, de propagande et tout ça. Ouais.
Et cette loi-là va justement être adoptée en juillet 1924 et ça va changer complètement la donne dans le débat au sein des églises locales. Pourquoi?
Bien, parce que, aux grandes dames de ceux qui sont en faveur de l'Union, on va pas adopter leur projet de loi exactement de la façon dont ils l'ont présenté. Et on va y amener un amendement qui va quand même, en fait, qui change tout. Parce que, eux, ils avaient prévu que, bon, l'Église unie allait entrer en forme le 10 juin 1925. Puis qu'on a laissé 6 mois aux congrégations qui décident, oh, finalement, on ne veut pas en faire partie pour voter et quitter. Et du côté des anti-unionistes, c'est très symbolique, mais on ne veut pas. On ne veut pas être inclus dans l'Église unie, ne serait-ce qu'une seule seconde. Et on va leur concéder le droit, donc, de voter 6 mois avant l'inauguration de l'Église unie, individuellement. Donc, chez les presbytériens, chaque Église va décider si oui ou non elle entre dans l'Église unie. C'est quelque chose qui n'était pas prévu du tout au départ là, chez les presbytériens. Donc, on adopte un peu la façon de faire des congrégationalistes ici.
Et à Sherbrooke, comment ce vote-là va se dérouler?
Donc, à Sherbrooke, il va y avoir une lutte quand même assez intense là, à partir de décembre 1924, parce que c'est là qu'on va, on va en fait révéler la date du vote qui va avoir lieu en février 1925. Il y a deux groupes locaux qui vont vraiment essayer de faire pencher la balance de leur côté. Du côté des unionistes, on a un ancien de l'Église qui s'appelle M. Rodney, qui va vraiment rallier d'autres hommes autour de lui puis travailler très fort pour mettre de l'avant là, la position unioniste. Et du côté des anti-unionistes, ben, on a l'avantage d'avoir le pasteur Alfred Bright. Vous vous rappelez peut-être de lui, oui. On en a parlé un peu plus tôt. Il est toujours en place en 1924.
Est toujours contre
et déterminé à exposer son point de vue. Il va multiplier les conférences, les lettres ouvertes dans le journal. Donc vraiment, le mois de janvier là, 1925 a été un mois très occupé pour M. Alfred Bright. Et c'est pas... Et ça va porter fruit, si on veut le voir ainsi, parce que y a seulement 24 % des membres de l'Église de Sherbrooke qui vont décider d'appuyer l'Union. Donc, on a 501 voix qui sont contre, 164 qui sont pour. Donc, ce qui fait en sorte que l'Église St. Andrews de Sherbrooke ne va pas passer dans l'Église unie. Et ce cas de figure-là est assez classique parce que l'historiographie a démontré que dans à peu près 80 % des cas, la communauté va suivre la position du pasteur.
Mais là, on a quand même 164 presbytériens à Sherbrooke qui se sont prononcés pour. Est-ce qu'ils restent dans l'Église St. Andrews ou est-ce qu'ils passent du côté de l'Église unie du Canada?
Bien, vous pouvez imaginer un peu toute la délicatesse de la situation et ouais. Le malaise qu'on peut avoir après s'être âprement chicané, si vous me passez l'expression, comme ça, avec ces co-religionnaires. Mais il y a plusieurs options qui s'offrent à eux. La plupart vont en fait quitter l'Église et rejoindre soit l'Église Trinity, qui est l'Église méthodiste, ou l'Église Plymouth, qui est l'Église congrégationaliste.
Qui, elles, se joignent à l'Église unie.
Exactement. Donc, il y a 95 presbytériens qui vont aller chez les congrégationalistes et il y en a 38 qui vont aller chez les méthodistes, ça, à Sherbrooke, évidemment. Une autre option qu'on va leur suggérer, et ça, c'est les instances unionistes nationales qui vont suggérer ça aux gens, ils vont leur dire, bien, vous pouvez peut-être rester en place au moins jusqu'au 10 juin 1925 à essayer de voir si vous ne pouvez pas convaincre d'autres personnes. Oui.
Il lâche pas le morceau, hein?
Non. De vous suivre, donc de changer d'avis, d'exposer les arguments. Puis d'ailleurs, à Sherbrooke, au printemps 1925, il va y avoir une série d'allocutions auxquelles on va inviter les indécis à joindre là, pour essayer de les influencer dans ce sens-là. Mais généralement, les gens vont quitter Parce que, bon, c'est ça, si on regarde les chiffres, là, il y en a peut-être une vingtaine qui sont restés. Mais on peut imaginer que, bon, ça serait assez difficile de continuer à aller de l'avant dans une église où il n'y a pas de consensus à ce sujet-là, puis où il y a fort probablement eu des disputes, des insultes et ce genre de choses entre les membres.
Effectivement. Et donc là, si on se téléporte quelques années plus tard, l'Église unie du Canada est créée, comme vous l'avez mentionné, le 10 juin 1925. Les congrégationalistes, les méthodistes et une partie des presbytériens la forment. Il y a une partie des presbytériens qui, eux, justement, décident de continuer à évoluer parallèlement. Que va-t-il advenir de ces églises-là? Bon, vous avez dit tout à l'heure que, bon, il y avait une tentative de rapprochement avec les Anglicans, mais qu'ils tenaient quand même trop à leur évêque pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il va y avoir d'autres groupes qui vont joindre à l'Église unie? Est-ce que les presbytériens vont être tentés de se rejoindre à l'Église unie du Canada?
Non. Non, encore à ce jour, l'Église unie du Canada existe toujours, puis il n'y a pas d'autres groupes qui se sont joints, du moins pas des groupes très, très importants en termes de nombre. Parce que, bon, les Anglicans, comme on l'a déjà mentionné, il n'était pas question de s'entendre sur la question de l'épiscopat. Du côté des baptistes aussi, qui sont quand même une confession assez présente au Canada à l'époque, on les avait consultés déjà en 1906, mais ils avaient décliné l'offre et ça ne sera pas renouvelé là, dans les années suivantes. Ce qui fait en sorte que, à partir de 1925, les quelques années qui vont suivre pour l'Église unie, c'est vraiment une période de consolidation. Donc, on peut imaginer qu'une église qui, en 1931, regroupe 2 millions de fidèles, qui devient la plus nombreuse au Canada, a quand même certains petits ajustements à faire au niveau de leur
comprendre.
Structure. Et donc, ils vont devoir mettre tout ça en forme. Du côté des presbytériens, il faut savoir qu'il y a un tiers des presbytériens qui décident de ne pas entrer dans l'Église unie. Donc, il y en a deux tiers qui quittent. On peut imaginer l'effet que ça peut avoir sur une congrégation de voir deux tiers de ses effectifs quitter. Un exemple parmi tant d'autres, il y a eu tout un litige autour de qui allait conserver le collège presbytérien à Montréal. Donc, éventuellement, ça va être les presbytériens. Mais bon, on peut penser à toutes ces difficultés-là de restructuration qui vont se poser quand on considère qu'il y a deux tiers des effectifs là, qui ont quitté. Ils vont même devoir se battre pour conserver leur nom parce qu'on considère que la Presbyterian Church in Canada est entrée dans l'Église unie, donc ils n'ont plus le droit d'utiliser ce nom-là. Ils vont se battre en cours jusqu'en 1939 avant d'obtenir le droit d'utiliser le nom.
Effectivement, ils ne devaient pas être très, très contents. Et chez les presbytériens, est-ce qu'il y a encore des traces de ça aujourd'hui?
Absolument. Absolument. Particulièrement chez les presbytériens, il y a encore une certaine animosité, même chez des personnes qui n'ont pas du tout vécu ces événements-là, parce que, bon, on s'imagine bien que les gens qui l'ont vécu sont décédés aujourd'hui, mais qui l'ont entendu raconter par leurs parents, puis qui ont encore une dent là, contre ce qui a pu leur être fait là, par l'Église unie, parce qu'eux, ils voient vraiment ça comme un schisme, ce qui s'est passé dans l'Église presbytérienne, tandis que du côté de l'Église unie, bon, on voit ça comme une union, un triomphe de l'unité religieuse canadienne, ce qui n'est pas le cas chez les presbytériens, qu'on voit ça comme une terrible division. Et cette division-là, elle est même encore présente dans l'historiographie. Je lisais un texte qui date de 2011 où on voit encore, et qui parle d'une église presbytérienne, et où on voit encore ce parti pris, cette rancœur qu'on peut avoir contre l'Église unie. Donc, 80 ans plus tard, c'est quand même une division qui persiste, là, même chez les auteurs, chez les historiens.
Fascinant. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Un gros merci, Mme Bérubé.
Ça fut un plaisir.
Et pour ceux que ça intéresserait, le mémoire de maîtrise de Julie Bérubé est accessible sur le portail de l'UQTR. Donc, vous pouvez vous y plonger si vous voulez avoir plus d'informations sur la question. Pour l'heure, on se laisse avec le Nunc Dimittis en La de Basil Harewood, qui était un compositeur et organiste anglais. Né de parents Quaker, il va se convertir avec sa famille à l'anglicanisme alors qu'il est encore enfant et sera par la suite principalement connu pour sa production de musique sacrée. Donc, même s'il ne s'est pas joint à l'Église unie du Canada, puisque, bon, on parle ici d'un personnage britannique et d'un anglican, c'était une petite façon de terminer, en fait, cette émission pour rester, en fait, dans l'esprit de l'époque. Bonne semaine, tout le monde!
Terre en vue! Vos marins d'eau douce sillonnent les archipels du divertissement accompagnés de leurs fidèles matelots. Pour tout savoir sur le meilleur du cinéma, des séries télé, du gaming et plus encore, écoute les marins d'eau douce dans une ambiance décontractée et sans prétention. Un rendez-vous des plus divertissants, tous les vendredis 13h sur les ondes de Cheese 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Cheese 94.3 FM.